Donc, ce matin, je vous demande de tourner dans Éphésiens chapitre 3. J'aimerais vous faire part de ce que j'appellerais une intuition comme ça que j'ai depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, parce qu'on réfléchit à comment on continue à maintenir une tradition qui est là depuis que l'Église existe à travers Pasteur Jeff, qui est de toujours... Vous savez, on peut abandonner bien des choses dans une église, lâcher des projets, commencer des nouveaux. Bref, ça, le temps passe et les idées aussi. Mais il y a une chose sur laquelle il ne faut jamais se relâcher, c'est la parole de Dieu. Donc, ça a toujours été là. Moi, la première fois que je suis arrivé dans cette église, en 1983, en mai 83 à peu près, en septembre, je m'inscrivais à un cours biblique, puis c'était ça. Je n'avais jamais lu ma Bible encore au complet, puis on s'embarque dans la Bible et on commence à étudier ça. Puis la Bible parle, c'est essentiellement une question de connaître la parole. Puis à travers les années, Dieu a beaucoup béni et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles Dieu nous bénit. C'est pas à cause de nous, c'est toujours à cause de lui, mais en même temps, Dieu honore ceux qui honorent sa parole. C'est un principe important, ça, dans l'Écriture. On peut pas faire l'œuvre de Dieu sans la parole de Dieu, mais c'est tentant de faire ça en même temps, parce qu'on est créatif, on a des idées, puis on a plein de projets, puis on est riche. On est dans des pays riches, donc on est capable de faire arriver des choses par le moyen des finances, puis de tous les moyens qu'on a. Donc, je vous dirais que c'est à la fois une bénédiction d'avoir de la richesse, c'est à la fois peut-être un piège de l'autre côté. Donc, il faut apprendre à équilibrer tout ça ensemble puis se servir des choses comme Dieu le veut. Donc, l'importance de la parole de Dieu et cette intuition que j'ai, c'est pas une intuition qui est bien, bien profonde, vous me direz, parce que le format et l'idée d'élever la parole de Dieu dans cette Église, ça a toujours été. Sauf que il y a cette idée qui m'habite depuis quand même plusieurs mois de rehausser le niveau en même temps dans l'Église. Partant de l'idée que la vie éternelle, nous dit Jésus dans l'Évangile de Jean, il va dire la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ son Fils, celui que tu as envoyé. Et quand on entend le texte, on ne réalise pas que Jésus parle de son Père, mais il parle de lui. Tu sais, ça pourrait paraître un peu arrogant. Tu sais, parler de soi, c'est que vous croyez en celui qui, moi, c'est qu'il a envoyé, mais venant de sa bouche à lui, c'est pleinement justifié. Donc, la vie éternelle, la façon qu'elle est présentée par Jésus, elle défie une obsession humaine et charnelle que nous, on aime ça, faire des choses. Mais la vie éternelle, c'est pas d'abord de faire des choses, c'est d'abord de connaître et de croire. Vous savez, c'est un peu une idée semblable dans Jean 6, après le miracle de la multiplication des pains et des poissons et tout ça. Et là, vous avez des gens qui prêchent Jésus en disant, dis-nous ce qu'on doit faire. On est obsédé par ça. T'sais, maintenant qu'on a été touché, on a vécu des choses avec toi, on veut faire. Et il dit qu'est-ce qu'on devrait faire? Et c'est quoi sa réponse? C'est que vous croyez en celui qui vous a été envoyé, donc encore lui. Et ça, c'est comme, OK, mais nous, on a l'impression, on dit, oui, mais t'es là, on croit, c'est correct, c'est réglé, passons à d'autres choses, qu'est-ce qu'on va faire? Puis, non, si vous pensez que vous avez compris, c'est justement parce que vous n'avez probablement pas compris. Et c'est notre gros défi, ça, c'est que comprendre qu'on ne comprend pas. Comprenez-vous? Donc c'est cette idée que, comme Église, on fait beaucoup de choses, puis c'est correct, je ne suis pas en train de dire qu'on doit arrêter de les faire, puis ça s'affoler avec ça, mais il y a cette importance de comprendre qu'on doit faire les choses, mais c'est les choses que Dieu a préparées d'avance. On est dans un dessein. J'aime dire, des fois, on est dans un tout inclus. Donc, tout est pourvu, à la fois notre salut, notre bénédiction, mais l'apôtre Paul ajoute que Dieu a préparé d'avance des œuvres dans la lettre aux Éphésiens. Donc, Dieu a pensé à... Donc, il y a pour nous des dons, des charismes, des appels, il y a tout ça, là. Et je pense, des fois, qu'on ne prend pas toujours le temps de comprendre ce que Dieu a préparé d'avance et de prendre le temps par sa parole, parce que c'est par sa parole qu'on connaît ces choses-là. Je disais la semaine passée, ou la deux semaines, je suis à l'église du Saguenay, je dis, écoutez, des fois, il y a des choses pour lesquelles on doit prier, puis la prière, ça a sa place, puis il y a des affaires pour lesquelles, des fois, c'est pas la prière qui est la solution, c'est la parole. Des fois, on veut connaître la volonté de Dieu pour une question quelconque. La réponse est dans l'Écriture, mais on va préférer aller demander à Dieu de nous dire quelque chose qu'il nous a déjà dit dans sa parole. Donc, la parole doit être, c'est l'apôtre Paul qui le disait aux Colossiens, que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. Et c'est probablement une des grandes négligences de notre siècle. Chez nous, les évangéliques en général, c'est qu'on est tellement occupé à faire des choses pour Dieu qu'on connaître Dieu à travers sa parole, c'est un petit peu moins important, facile à négliger. Donc, l'amour de Dieu dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 19 nous dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ, vous voyez le lien entre l'esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ. Le Nouveau Testament insiste beaucoup sur ces deux personnes de la Trinité qui œuvrent ensemble. Donc, que Christ, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est intéressant de la façon dont l'apôtre Paul l'amène, parce que lui voit une richesse dans ça. Et je ne suis pas certain qu'il nous parle d'une richesse qu'on saisit très bien, parce que pour nous, l'amour de Dieu, le mot amour fait presque automatiquement référence à une émotion. Et c'en est une. L'amour, c'est une émotion. Mais quand Dieu nous parle de l'amour, l'amour n'est pas qu'une émotion. En fait, si l'amour n'était qu'une émotion, ça pourrait ne produire pas grand-chose, parce que d'une émotion à l'autre, on peut passer de l'amour à la haine assez facilement dans cette nature humaine où on est corrompu par le péché. L'amour de Dieu, lui, s'incarne à travers le sacrifice de Jésus. Donc, Jésus-Christ incarne l'amour de Dieu. Donc, Dieu ne fait pas que dire qu'il nous aime. Son amour a fait en sorte qu'il a donné son Fils. Il ne faut jamais séparer les deux. L'amour coûte. Si on veut aimer et on pense que ça ne doit rien coûter, ben on est plus dans un amour du siècle présent, un amour qui consomme les choses, qui consomme les gens, puis tout est jetable après usage. Donc, le deuxième texte que j'aimerais lire, c'est Romains 5, versets 1 à 5, qui redit des choses semblables, et on retrouve les mêmes idées. L'Esprit Saint, Jésus-Christ et l'amour de Dieu. Donc, verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. » La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, vous voyez, amour, Esprit Saint, Jésus-Christ, ici. C'est pas dur de trouver des textes où ces trois éléments-là sont présents dans les lettres de Paul, mais on voit une insistance quand même de la part de Paul. Donc, durant un cours à la faculté, je posais justement la question au professeur Dominique Angers, qui était ici dimanche dernier. D'ailleurs, je sais que vous avez beaucoup apprécié sa présence. C'était vraiment, beaucoup de monde m'en, en ont parlé. Donc, comme je vous disais, il va y avoir un cours qui va être donné par lui ici la session prochaine. Mais bref, on discutait de ça après un cours une fois, à savoir de quoi Paul parle-t-il quand il va parler de l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Est-ce qu'il parle d'une vague émotionnelle ou il parle de aussi la présence de Christ qui est mise dans nos cœurs? Et on se rend compte que quand l'apôtre Paul parle de ça, c'est également dans Romains 8 aussi, il parle de l'amour de Dieu. Je ne sais pas si c'est volontairement qu'il ne précise pas tout à fait le propos, parce qu'on a l'impression que c'est les deux idées qui sont vraies. Si Christ n'est pas dans nos cœurs, l'amour de Dieu n'y est donc pas de toute façon. Donc, c'est comme si on pouvait comprendre que Christ, en lui, réside tout l'amour du Père pour nous. Donc, c'est de Christ dont il est question. Vous voyez l'idée? Nos milieux évangéliques sont reconnus pour la force de leur spontanéité qui les anime. On va juste faire 5 minutes d'histoire, vous allez voir où je veux en venir. Le monde évangélique, selon certains historiens, a plus ou moins 2 siècles, 2 siècles et quart. C'est toujours dur de préciser les limites de ça, mais le monde évangélique, c'est un mouvement chrétien qui, comme la plupart des mouvements chrétiens, est né dans une réaction à quelque chose. Donc, si la réforme de Luther en 1517 et tout ce qui s'en est suivi, et le calvinisme avec Calvin dans le même siècle, ça a déboulé, c'était une réaction aux hérésies catholiques, quand même. On réagissait à quelque chose, donc c'était un retour à l'Écriture. Et les réformateurs ont eu un retour à l'Écriture qui était théologique, qui était très, très solide. Et puis, ils ont installé des bases théologiques solides qui durent jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a ressorti les credos, ranimé les credos qui remontaient au 4e et 5e siècle de Nicée, Constantinople. Et on a réaffirmé les choses et on a ajouté des confessions de foi. Il y en a eu plusieurs confessions de foi, dont la 1689 qui est arrivée un peu plus tard. Mais c'est important de structurer théologiquement les choses, de réexpliquer par l'Écriture des vérités chrétiennes importantes, parce qu'on voyait bien que le catholicisme, en partie, avait dévié sur toutes sortes d'autres choses qui n'étaient plus appuyées sur la parole. Donc, c'est une réaction, c'est une bonne réaction qui a corrigé des erreurs. Le mouvement évangélique, lui, est arrivé à peu près 2 siècles et demi après. C'est comme une autre vague qui arrive, mais elle, cette vague-là, arrive dans les pays anglo-saxons quand même beaucoup, qui sont protestants, et un peu une réaction, non pas à la réforme, mais à ce qui se produit avec la réforme 2-3 siècles plus tard, c'est-à-dire, et là, c'est les Américains et les Britanniques sont très impliqués dans ça, il y a des églises luthériennes, presbytériennes, des grandes communautés qui viennent d'abord d'Angleterre. Il y a également tout le mouvement de Wesley, les méthodistes, qui sont extrêmement importants dans ces périodes-là. Donc, les États-Unis se sont fondés à partir de gens qui partaient d'Europe, notamment beaucoup de l'Angleterre au départ, qui sont venus ici. Et politiquement, de la façon dont ça fonctionnait aux États-Unis, où il y a eu des grands réveils, il y a eu en même temps des problèmes. C'est-à-dire que les Américains, dans leur constitution, ont hérité du modèle anglais que les églises appartiennent à l'État. Donc, les pasteurs aux États-Unis qui venaient, passaient par des grandes écoles de théologie, étaient nommés pasteurs d'une paroisse, et souvent c'était des jeunes paroisses, parce que les Américains étaient dans la conquête de l'Ouest, donc gagnaient du territoire, installaient des populations, et on installait des pasteurs. Mais le salaire des pasteurs durant cette période-là était payé par l'État. Saviez-vous ça? C'était le mode qui était en Angleterre aussi. Donc, tu étais reconnu par ta congrégation, mais à la fois par l'État. Et c'est l'État. Et c'est ce qui fait que beaucoup de prédicateurs et de pasteurs à l'époque pouvaient, dans certains cas, ne pas être sauvés dirait-on. Parce que la carrière pastorale était très intéressante. On te fournissait une église, une maison avec des bonnes, un jardin avec un jardinier. C'était une belle job être pasteur à l'époque. C'est encore bon aujourd'hui, en passant. Mais je n'ai pas de jardinier, par exemple. C'est mon seul problème. Mais sérieusement, eux avaient... c'était pas également comme ça partout. Et si vous connaissez Georges Muller, dans son livre, il raconte lui aussi que c'était ça son défi. Il avait choisi la carrière pastorale, puis il disait, les pasteurs, ça ne travaille pas fort, ils donnent un message le dimanche, le reste de la semaine, ils sont chez eux, ils font rien. C'était une image qu'on avait parce qu'effectivement, tu n'avais pas besoin d'avoir un fardeau, une vision pour l'Évangile. C'était comme devenir notaire, avocat ou médecin. C'était une profession qui était recherchée par des gens instruits. Et le mouvement évangélique, paraît-il, aux États-Unis, est né en partie en réaction à ce phénomène-là. Il y a des gens qui ont dit, attends une minute, c'est comme, on se demande si ces gens-là qui nous enseignent ont connu Jésus-Christ personnellement. Et donc, il y a des vagues, il y a des réveils qui sont arrivés. Et ces réveils-là ont amené une vigueur qui a été excellente. Ça a réveillé les choses. Beaucoup de gens ont quitté leur église traditionnelle et se sont joints au mouvement évangélique. Mais parce que le mouvement évangélique était en réaction à un phénomène théologique organisé, le problème avec nos réactions, c'est qu'on cherche à produire le contraire de ce à quoi on réagit. Donc, beaucoup de ces mouvements évangéliques-là, surtout le côté un peu plus charismatique, réagissaient contre les confessions de foi, contre les credos, contre la théologie. Et là, c'était l'idée que si on veut marcher avec Dieu, il faut se créer de la liberté. Donc, les pasteurs s'autoproclament, aussitôt que tu connais 3 ou 4 versets, tu es capable de les prononcer, tu deviens pasteur rapidement. Et là, c'est un peu, en partie en tout cas, un des problèmes du monde évangélique de l'époque qui s'est perpétué, qui s'est raffiné, qui s'est réorganisé. Les milieux baptistes ont repris les confessions, ont réorganisé, parce qu'il y a toujours des gens qui réfléchissent là-dedans, qui disent, bon, ben, ça ne peut pas être tout croche comme ça. Là, je vous raconte vite, il y a tellement de détails à dire là-dedans, je le sais bien, mais ce que je veux juste montrer, c'est que on peut penser qu'on l'a l'affaire, parce que culturellement, on vient d'un milieu chrétien qui nous instruit à réfléchir d'une certaine façon et on peut attacher des passages bibliques à tout ça et rendre ça tout ça cohérent et penser que c'est-à-dire voilà, on l'a l'affaire. L'Église de Jésus-Christ, c'est forcément nous autres, les évangéliques. T'sais, tous les autres, là, les autres, c'est des perdus, là, finalement. Certains sont perdus parce que ce n'est pas vraiment l'Évangile. Certains sont perdus parce qu'ils sont trop académiques. Tout est perdu sauf nous, parce que nous, on n'est pas perdus. Mais au fond, il n'y a pas plus perdu que quelqu'un qui réfléchit comme ça, peut-être. Aussi. Donc, c'est pour ça que le retour à l'Écriture, mais selon une approche étudiée, un peu plus académique, est extrêmement importante. Et qui méprise cette approche, méprise le Seigneur lui-même. Connaître Dieu, et c'est là peut-être une bonne partie de notre problème, c'est qu'on ne se casse pas beaucoup la tête dans les milieux évangéliques, je pense que c'est peut-être pas vrai pour tout le monde, là, mais on ne se casse pas beaucoup la tête à connaître Dieu. C'est qui Dieu? Je disais à Pasteur Jeff cette semaine, la Trinité. On est tous d'accord. La Trinité. Mais qui de nous est capable d'en discuter plus que 5 minutes? Être capable de défendre l'idée dans l'Ancien, le Nouveau Testament, puis de sortir des arguments, puis montrer ça, là, défendre ça. La divinité de Christ, c'est Dieu, là. C'est qui, lui? Bon, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu. Oui, on adhère de cœur à l'idée que si mon Église, notre milieu, ça fait partie des idées, Mais qui de nous s'arrête pour dire, OK, je ne réfléchirai pas à mes projets glorieux, à tout ce que je pourrais faire de bon pour Dieu. Je vais obéir à cette idée que je vais le connaître, lui, le seul vrai Dieu. Prendre du temps pour connaître Dieu. Je dirais perdre du temps pour connaître Dieu. Le Saint-Esprit. Beaucoup de gens qui prêtent au Saint-Esprit toutes sortes d'idées, de projets et d'intentions que l'Écriture ne défend pas. Et ils se sont bâtis une bizarre de théologie du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui est le Saint-Esprit d'un couvert à l'autre de l'Écriture? Ça, ils ne sauraient pas le défendre non plus. Donc, quand je vous parlais d'une espèce d'intuition, c'est un peu le cœur de cette intuition-là qui m'arrive depuis quelques mois, c'est cette idée, comme Église, qu'on puisse prier cette semaine pour que Dieu nous donne pas tellement une soif de projet, puis on en a plein de projets, puis ça ne sera jamais un problème de faire des choses. Mais c'est comme si Dieu nous invitait. J'aime l'image de Jésus qui dit à Pierre dans l'évangile de Matthieu, je pense, verset chapitre 14, quand Jésus a marché sur les eaux, et Pierre a dit à Jésus, « Si c'est vraiment toi, ordonne que j'aille vers toi. Je ne peux pas me donner à moi cet ordre-là d'aller vers Jésus. Il faut que ce soit lui qui le déclare. » Et là, Jésus a dit, « Viens. » Donc, un peu dans cette même dynamique, comme si on demandait au Seigneur, « Ordonne qu'on te connaisse. » Comprenez? « Ordonne qu'on apprenne à savoir qui toi, Dieu. » Dans un monde d'hyperactivité, de plein de projets, de toutes sortes de possibilités, comme si on calmait les choses et qu'on disait à Dieu, on va prendre du temps pour te connaître, toi. On veut savoir t'es qui. Parce que dans notre arrogance, on pense qu'on le sait. Et comme si c'était quelque chose que Dieu bénirait par la suite. S'intéresser à lui. Comme si honorer Dieu fait en sorte que Dieu honore ceux qui l'honorent lui. Parce qu'autrement, on s'étourdit dans des projets. Là, je ne parle pas de notre Église en particulier, je parle le monde évangélique, c'est ça. C'est des projets, c'est des idées, c'est des bonnes idées. Il n'y a personne qui a des mauvaises idées. Un piège subtil. Le malin a des pièges de tout genre, pour tous les genres de personnes. Encore là, je vais citer Pasteur Jeff. Je pense que tu es là. Fait que si je mens, il va vous le dire. Des fois, j'y rappelle des paroles, je ne me souviens pas de les avoir dites. Je pourrais me les garder pour moi, ceux-là. Non, mais je me souviens, dans les deux, trois premières années où on était ici à l'Église, dans les années 80, il avait dit une fois, « Le malin a des pièges pour toutes les sortes de personnes que vous êtes. » Ça dit-tu quelque chose? T'sais, il dit, « Si vous êtes très charnel, il va vous proposer des trucs très charnels, puis il va vous mettre out the game avec ça. » Si vous êtes très ambitieux, même pour l'Évangile, le malin est capable de vous piéger là-dedans puis de vous occuper en masse, ce qui fait que... En d'autres mots, son objectif à lui, ce n'est pas que vous ne fassiez pas des choses, mais son objectif à lui, c'est que vous ne connaissiez pas vraiment Dieu. S'il arrive à ça, vous pouvez avoir religieusement fait un tas de bonnes choses parce que toutes les bonnes choses que vous allez faire, vous-même... Le malin sait très bien que ça va venir nourrir votre justice propre. D'où un des pires pièges du malin, c'est celui qui consiste à rehausser notre bonté personnelle pour Dieu. Il est empoisonnant, celui-là, parce qu'il ne goûte pas le poison, il goûte la sainteté. Mais c'est le plus redoutable de tous les poisons, c'est celui où on commence à trouver qu'on est bon. Puis qu'on l'a l'affaire. Et qu'on l'a mieux que les autres en plus. Vous voyez, c'est fou. Donc, le piège le plus important consiste, au fond, à nous occuper de telle sorte que ça nous éloigne de l'Écriture. Pour nous faire produire des œuvres bonnes qui justifient un supposé vrai christianisme qui, lui, ne s'inquiète pas des précisions bibliques et théologiques. Si vous êtes sur Facebook, vous voyez ça passer à tous les heures. par le chrétien. Dès que quelqu'un de sérieux place une idée sur Dieu, théologique, vous avez des gens qui s'y intéressent. Et là, vous avez des gens qui envoient des trucs en disant « Ah, c'est pharisien, ça. » En voulant dire, dès qu'on veut comprendre mieux, mettre un peu d'académie, de précision sur une idée, on dit « C'est pharisien. » Celui qui dit une chose de même est un imbécile. Vraiment. C'est le cœur de Dieu qu'on le connaisse avec précision. D'ailleurs, aimez-vous ça, être connu pour ce que vous n'êtes pas vraiment, vous? Si on devait vous décrire, là, puis on expliquait à votre sujet toutes sortes de trucs, vous disiez, non, tu ne me connais pas. Puis la personne disait, oui, mais je t'aime. Je veux faire des choses pour toi. Mais vous savez très bien que la personne ne prend pas le temps de savoir qui vous êtes vraiment. Est-ce que ça vous insulte? Est-ce que ça insulte pas Dieu de dire, on va faire tellement de bonnes choses pour toi? Il y a même des croyants qui cachent un peu Jésus dans le placard en disant, regarde, on va te faire connaître, mais on a des stratégies, nous autres. On est dans le monde du marketing. Fait qu'on sait comment sortir le nom Jésus au bon moment. Si on le sort au début, ça ne marchera pas. C'est pas vendeur. Donc. J'avais fait un message dernièrement. T'sais, Jésus, là, on lit sa parole pour dire qu'il a tout fait, ça ne marche pas. T'sais, parce que sa puissance, à lui, ne repose pas sur des stratégies humaines. Ça, on met de la misère avec ça. Fait que nous autres, on ramène ça dans nos stratégies. Regarde, Seigneur, ça, fais-nous confiance. On va d'abord faire un certain nombre de belles choses. On va, nous, impressionner les gens. Les gens vont nous découvrir, nous. Ils vont nous trouver super bons. Puis éventuellement, si la porte s'ouvre, on va dire que finalement, c'est parce que c'était toi en arrière. Moi, je me souviens qu'on accusait les catholiques de cacher Jésus derrière des statues. Nous autres, on cache Jésus derrière nous, peut-être. C'est pire. Ou c'est aussi pire, pas mieux, en tout cas. Donc, autrement dit, la majorité des chrétiens évangéliques, je dis la majorité, c'est peut-être pas autant, là, j'exagère, je sais, mais la majorité des chrétiens évangéliques croient actuellement que la pertinence de leur marche avec Dieu repose sur la véracité et l'authenticité de leurs gestes à eux et que leur vie chrétienne est justifiée par leurs bonnes œuvres, surtout si elles sont humanitaires. Donc, vous avez toute la question de la crise des migrants qui a montré ça gros comme trois autobus. Un vrai chrétien est accueillant, accueille les immigrants. Il ne se pose aucune question. Tu te poses une question, tu es un pharisien. Voyez-vous? Parce que Dieu est amour, il nous accueille, il faut accueillir. Mais regardez, c'est une excellente idée d'accueillir des migrants. Faisons-le, là, en passant. Mais ça ne justifie pas que vous appartenez à Jésus-Christ. Des incroyants le font super bien, puis c'est vraiment super là, qu'on puisse les aider à la limite. Là. Le problème, c'est pas devons-nous les accueillir ou non. Accueillons-les, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on pense que quand quelque chose révèle notre bonté personnelle, ça révèle notre christianisme. Et ça, c'est faux. Donc, nous éloigner de la parole, non pour nous faire tomber dans des péchés moraux, mais dans les bonnes œuvres qui nourrissent une justice propre. Voilà le plan du malin. Donc, si le malin peut nous amener à faire un paquet de bonnes œuvres qui justifie notre appartenance à Jésus-Christ, puis qu'on se dit, ça paraît que tu es sauvé parce que tu fais telle et telle et telle, telle bonne chose, bien, on revient subtilement d'abandonner la justification comme base du salut, et on retourne un salut qui se justifie par les œuvres. Pourtant, on est supposé d'être pas d'accord avec ça. Théologiquement, on est supposé de penser que le salut est un don gratuit de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas reconnaître un croyant, je pense, strictement par ses bonnes œuvres. Moi, ça m'avait mêlé ma première année de vie chrétienne parce qu'il y avait une femme où je travaillais qui s'appelait Rita. Gilles, mon frère, se souvient d'elle, Rita. C'est une femme célibataire. C'était pas une religieuse, mais je travaillais dans un couvent de sœurs. Mais elle était là, Rita. Et Rita était fine, là. Rita était gentille. Puis moi, je me disais tout le temps, elle doit être sauvée, puis elle ne le sait pas, Rita. Elle est trop correcte, Rita. Tu sais, moi, je me regardais aller, j'étais franchement plus méchant qu'elle dans la vie tous les jours chez les sœurs. C'était un mauvais témoignage des fois. Tu sais, on est cave là, quand on est jeune chrétien. Peut-être quand on est vieux aussi, ça arrive. Bon, anyway, changeons de sujet. Non, mais Rita, elle, c'était douce, fine, gentille, serviable, aimable. Elle allait à la messe, mais pour moi, je vais dire, ah, pas sauvé quand tu vas là, c'est sûr. Et heureusement, par l'enseignement de la parole, on comprend que la bonté des gens ne les sauve pas. Tant mieux quand ils sont bons, par exemple. Cette humanité a besoin de gens qui sont gentils, vraiment. Mais il faut se débarrasser de l'idée que le salut dépend de ces choses. Donc, si le malin a réussi à faire de vous un excellent chrétien, dont la conduite est irréprochable et généreuse, mais sans trop la parole de Dieu qui vous habite, alors vous êtes devenu un de ses fils ou une de ses filles. C'est fou, hein, de dire une affaire de même. C'est ce que Jésus semblait dire dans Jean 8 aux pharisiens. Vous êtes des fils du diable. Et pourtant, il ne parlait pas des gens qui vivaient dans l'immoralité, qui faisaient des mauvaises choses. On a une image très négative des pharisiens, mais une étude plus attentive de qui ils étaient montre qu'ils étaient des personnes très bonnes. C'était des gens généreux, les pharisiens. Ce n'était pas comme dans les films où on les présente comme absolument des hypocrites. Ils n'avaient pas une hypocrisie apparente comme le cinéma nous le dit. C'était des excellentes personnes, d'où la séduction dans laquelle ils étaient. Donc, la vie éternelle, c'est de le connaître, lui, le seul vrai Dieu. Ce qu'on devient, nous, certains d'entre nous, on devient des spécialistes de quelque chose qui concerne Dieu. Ça nous évite d'avoir à le connaître. Donc, vous avez beaucoup de spécialistes d'eschatologie qui savent absolument tout sur le diable, mais qui en savent plus sur le diable que sur Dieu. C'est fascinant quand même. La vie éternelle, ce n'était pas de connaître Satan. Mais il y en a qui savent avec précision comment l'Antéchrist va arriver. Là. Ils savent ça. Le Nouvel Ordre mondial sont des spécialistes de toutes ces questions-là. C'est incroyable. Et en plus de ça, beaucoup des idées qu'ils tiennent sont farfelues. C'est un mélange d'idées politiques, de conspirationnisme avec un peu de Bible, injecté avec des versets, puis tu arrives avec des tableaux là, que Jésus revient cette année. Là. Donald Trump, pour certains, c'est l'Antéchrist. Pour d'autres, c'est un envoyé de Dieu. Les chrétiens pensent... Et là, Kim Jong-un, probablement, on va le classer quelque part là-dedans. Vous savez, cette manie qu'on a de... C'est fou. Mais tout ça, c'est de l'ignorance, en fait. Fausse connaissance. Il y en a qui sont spécialistes des prophéties aussi. Hein? Prophéties de la fin des temps, ça savent tout ça, là, comment ça va arriver. Là. Ils se trompent tout le temps. Mais quand ils se trompent, ils ne le reconnaissent pas, ils recommencent. Donc, ce n'est pas Dieu que tu connais, c'est des choses que tu connais. Il y a des gens spécialistes dans les prodiges et les miracles. Tout le prosperity gospel, capable de nous parler de ça pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Mais qui est Dieu exactement, ça? Si vous leur posez quelques questions plus précises sur la personne de Dieu, ils ne pourraient pas vous dire grand-chose sur lui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut être même un spécialiste de l'évangélisation. Moi, j'ai vu des gens qui étaient des ardents évangélistes. Et dès que tu essaies de jaser de Dieu un peu avec eux autres, c'est comme... aussi une discussion que Pasteur Ruff avait eue avec certains. Tu sais, c'est comme... ils te trouvaient étrange en disant, « Pourquoi tu te poses ces questions-là? » Nous autres, on va l'annoncer, c'est assez. Bon, j'ai grossi l'idée, mais vraiment, il y a ça aussi. Évidemment, on peut devenir des experts d'œuvres humanitaires. Puis là, je suis pas en train de vous dire que toutes ces choses-là ne sont pas bonnes. Je suis en train de vous dire que si ça devient l'objet de notre relation avec Dieu, on peut devenir des spécialistes de la louange aussi. Ça marche très, très fort. Des concerts de musique de louange attirent plus que le message de l'Évangile aujourd'hui. Il y On va dire, ouais, mais il parle de Jésus pareil. Oui, mais attention, il y a une déviation pareille, parce que dès qu'on nous éloigne de l'Écriture et de l'Académie des Écritures, c'est un piège. Donc, en terminant, je vais lire 1 Corinthiens, chapitre 13, juste pour montrer une idée toute simple. Donc, l'intuition sur le jeûne ou l'idée que je voudrais nous lancer, le défi que je voudrais nous lancer, c'est qu'on demande au Seigneur qui nous restaure dans une soif pour sa parole, pour une soif de le connaître lui. Et on verra ce que Dieu fera. Parce que quand Dieu envoie sa parole, puis quand sa parole est là abondamment au milieu de nous, sa parole agit comme une semence qui fait pousser des choses dans nos vies, qui fait ressortir nos charismes, nos dons, nos appels. Ça vient peut-être moins de la prière des fois, de savoir c'est quoi l'appel de Dieu sur ma vie, que de juste laisser la parole de Dieu me remplir, m'inonder, et tout à coup, quelque chose pousse de ma vie. Peut-être quelque chose que je n'avais pas prévu. Je ne savais pas que mon appel, ce serait ça plutôt que ça, parce que moi, j'aime tellement ça, mais peut-être que Dieu m'appelle plutôt ici. Donc, c'est la parole qui vient débroussailler tout ça. Vraiment. Et je voulais juste retenir 3-4 idées, vous ne tournez pas là, mais dans Luc 10, l'insistance est toujours là, elle est là dans l'Ancien Testament, elle est là dans le Nouveau Testament. Dans Luc 10, vous avez ce défi de Marthe et Marie, Marthe qui préférait faire des choses, et Marie qui préférait entendre la parole de Dieu. Et ce qui est étonnant, c'est que Jésus va défaire un concept ici, c'est que normalement, dans le monde de l'époque, les femmes s'occupaient des choses à cuisine, et les gars écoutaient le maître. Avez-vous remarqué que Jésus défait cette procédure? Il va dire à Marthe, Marie a choisi la bonne part, elle aussi. Puis toi aussi d'ailleurs, lâche les casseroles, viens t'entendre la parole de Dieu. C'est pour les hommes, c'est pour les femmes, autant. Esdras 8, un réveil en Israël qui s'est fait par quoi? Le retour à l'Écriture. Ils reviennent d'une longue période en Babylonie. Ils ont oublié qui était l'Éternel. En tout cas, ils s'en souviennent vaguement. On réouvre les textes. On se met à lire ça publiquement. Tout le monde se met à pleurer. Ils pensaient connaître Dieu, mais là, ils entendent les textes. Dans Josué 1, qu'est-ce que l'Éternel dit à Josué? Tu vas méditer cette parole jour et nuit. Et c'est ainsi que tu auras du succès dans tes projets, qui sont les projets de Dieu. Donc, essaie pas de réfléchir à toute la sagesse administrative de ton projet. Commence par chercher dans la parole. Et Matthieu 4:4, Jésus avait dit, quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et des versets comme ça, il y en aurait plein qui expliquent toujours l'importance de toujours ramener la parole de Dieu avant toute chose. C'est la parole de Dieu, comme une eau qui nous arrose, qui nous féconde et qui doit produire en nous les œuvres de Dieu et non nos idées créatives, si extraordinaires soient-elles. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 31. Je vais lire tout. Hein? Non, je vais commencer par le chapitre 12. Je voulais vous juste faire remarquer une idée, toujours des idées. Si on lit 1 Corinthiens 13 sans avoir lu 1 Corinthiens 12, on passe à côté d'une idée qui est vraiment importante. C'est, de quoi parle 1 Corinthiens 12? Les dons spirituels, il y a les appels, il y a plein de choses en 1 Corinthiens 12. C'est tout ce que l'Esprit Saint produit dans une église à travers les différents dons, charismes qu'il donne. Il y en a plein, là. 1 Corinthiens 12, c'est chargé, là. Et le dernier passage, au verset 31, il va dire « Aspirez aux dons les meilleurs. » Donc, de tout ce qu'il venait de dire au chapitre 12, que je ne vous dis pas parce que ce serait long. Mais là, il va terminer en disant « Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Donc, cette déclaration-là, ce dernier verset-là est comme une espèce de pont entre le 12 et le texte dans lequel Paul parle de l'amour. Souvenez-vous, j'ai commencé à vous parler de l'amour tout à l'heure. On va revenir là-dessus. Donc, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, cette déclaration-là est une relance au chapitre 12, où il parlait des langues. Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, relance du chapitre 12, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi pour transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je ne suis rien. Et même pour les humanitaires, je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est terrible ce que Paul vient de dire là. Comme s'il disait, si ce que vous faites n'est pas motivé par l'amour, mais l'amour ici, dans le langage de Paul, est-ce que ce n'est pas en lien avec Éphésiens 3 qu'on a lu tout à l'heure, Romains 5 qu'on a lu tout à l'heure, ce n'est pas l'amour vague d'émotion, c'est l'amour présence de Christ. C'est Dieu, c'est sa parole, c'est tout ça là, dont il s'agit. C'est faire les choses et les dons spirituels, même les dons et les appels et les charismes, comme Paul nous dit, peuvent devenir un phénomène de compensation pour ne pas vraiment servir Dieu. C'est étonnant. Il va dire, c'est pourtant des dons et des charismes que Dieu donne. Ils ne viennent pas du diable, ils viennent de lui. Mais il est en train de nous avertir en même temps. Mais si vous marchez juste là-dessus, les gars, ça peut vouloir rien dire. Donc, c'est comme si Paul nous forçait à aller plus loin. Et là, il nous parle au verset 4. La charité ou l'amour est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais quand tout cela sera venu, tout ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Ça prendrait du temps mettre un peu de viande autour de toute cette idée-là qui est vraiment, vraiment très riche. Certains commentateurs vont parler que l'amour ici, la description de l'amour de Christ explique Dieu. Christ. C'est comme si c'était de Christ dont il s'agit, comme si dans le langage de Paul, amour parle de Christ. Donc, c'est cette espèce d'idée que faut quitter les compensations qu'on se donne, même dans notre service pour Dieu, pour s'attacher à lui. Dernière idée, je ne crois pas que Paul est en train de faire une pression sur nous pour qu'on essaie de produire ça par nous-mêmes. Vous et moi, dans nos conditions naturelles, on est capable d'aimer de façon très humaine. Ça peut être très efficace. Il y a des gens plus gentils que d'autres, d'autres moins. Mais l'amour dans notre humanité, c'est variable. On passe de la haine à l'amour assez facilement, de l'amour à la haine et ainsi de suite. C'est probablement ici un amour que Dieu produit par son esprit. Encore là, c'est Romains 5, c'est la prière de Paul d'Éphésiens 3, que cet amour de Christ, qui est aussi Christ lui-même, soit versé abondamment dans nos cœurs. Et ça, c'est aussi un retour à la parole. On ne peut pas prétendre aimer quelqu'un si on n'aime pas ce qu'il a à nous dire. Et ce que Dieu a à nous dire est écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu. Donc, c'est le défi qu'on va se lancer pour la semaine qui commence demain matin. Prendre du temps dans la parole. Donc, amenez votre Bible, prenez du temps dans la parole. Il ne se passera peut-être pas des énormes choses cette semaine, mais ça pourrait être le début de quelque chose, par contre, qui va vous donner envie de lire encore plus, de réfléchir encore plus, de vous instruire à travers les cours qui sont donnés ici, à travers la faculté. Soyons une Église qui honore Dieu en honorant d'abord sa parole. Amen. Merci Seigneur de bénir cette prédication dans nos cœurs, de bénir cette nécessité d'instruction Et encore là, Seigneur, toute la motivation, tout le cœur pour ta parole, c'est une invitation que tu dois nous lancer, Seigneur. Amène-nous à ta parole, attire-nous vers elle, Seigneur. Crée cette soif, ce besoin, Seigneur. On est tellement pauvres. Nous, tout ce qu'on a, c'est juste quelques bonnes intentions. Mais toi, Seigneur, tu peux produire en nous ce vouloir et le faire, Seigneur. Que dans ce troisième millénaire, Seigneur, on puisse, dans cette Église, élever ta parole aussi haut que possible. Parce que c'est par elle que tu fais tout le reste. C'est par elle que tu fais ton œuvre dans nos vies. C'est par elle, Seigneur, que tu fais de nous des prédicateurs, des évangélistes, des docteurs. C'est par elle, Seigneur, que tu animes tous ces dons, ces charismes dans nos vies. C'est ta parole, Seigneur, qui est créatrice de toutes choses. C'est elle qui a créé le monde, qui a créé l'univers, qui a créé tout ce qui existe. C'est ta parole puissante. Alors, merci de nous faire goûter à cette puissante parole, mon Dieu. Amen. Bon dimanche.